Salut, c'est Champ Libre. Salut à tous, Champ Libre numéro 628, un Champ Libre avec un bon rhume, donc j'espère que vous pourrez m'écouter jusqu'à la fin. Un champ libre avec des invités. Damien qui a ajouté son truc en métal, là, je ne sais pas lequel. Jo.
Bonsoir.
Et son DVD Poétique sans fin.
Oui.
C'est ça. Et Laurent, bien sûr, toujours à la technique. Alors, j'avais envie. Bah, tiens, on parlait de Poésie sans fin. Y a une énorme bombe qui est tombé dans l'actualité cette semaine. Alors non, vous vous trompez, c'est pas le premier tour de la primaire de la droite. C'est pas de
non,
ça dont
non,
je voulais
non,
vous
non,
parler.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas que M. Trump trompe, ça non plus. C'était pas de ça dont je voulais parler. Non, la bombe nucléaire, c'est le prix Nobel de littérature, rendez compte, attribué à M. Bob Dylan, alias Zimmerman. Le mec dont on parle le plus dans cette émission, le gars qu'il ne faut absolument pas critiquer dans Champ Libre, sinon l'animateur n'est plus enrhumé du tout, le gars dont ça fait au moins 12 000 émissions, je vous dis que là, ce mec-là a des textes qui vont bien au-delà de la chansonnette, etc., etc.
Du coup, on dit rien, tu vois.
Voilà, donc ouais, voilà. Faites bien. Donc, du coup, lorsqu'on a annoncé Bob Dylan, prix Nobel de littérature, je me suis dit, tiens, chouette. Et puis, je me suis dit, ça va jaser. Pas raté, ça jase. Il y a même des écrivains français. Pourquoi français ailleurs, je ne sais pas. Il y a même des écrivains français qui ont lancé une campagne de signature contre le Nobel à Bob Dylan. Alors, moi, je vous dirais que je pense que ce prix Nobel est mérité. On pourrait d'ailleurs faire une émission de plusieurs heures uniquement là-dessus, on ne la fera pas. Par contre, j'ai noté sur le net et dans la presse deux réactions, une réaction contre et une réaction pour. Alors, la réaction contre, c'est un monsieur qui s'appelle Irvine Welsh, qui vit en Écosse, qui a écrit un roman intitulé Trainspotting. Je suppose que vous avez vu le film, là, vous les
oui.
Cinéphiles.
Et le livre.
Monsieur Irvine Welsh, voilà ce qu'il a dit. Ça, alors accrochez-vous parce que c'est hyper intello. Le Nobel de littérature à Bob Dylan, c'est le choix nostalgique d'une bande de hippies séniles à la prostate rance. Voilà. Alors, je ne connais pas Irwin Welsh, mais je lui dis, côté prostate, pour l'instant, ça va. Par contre, il y a un autre bonhomme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Leonard Cohen, qui, lui, je ne suis pas sûr qu'il aille aussi bien que la plupart d'entre nous, voilà. Qui sort un album très bientôt, qui paraît-il est excellent. Alors lui, lorsqu'on lui a annoncé que son confrère Bob Dylan, Robert Zimmerman, etc., avait le prix Nobel, il a dit, au sujet du prix Nobel qu'il a reçu, Bob Dylan, qui est pour moi l'équivalent d'épingler une médaille sur le mont Everest, pour le reconnaître comme la plus haute montagne. Voilà, c'est quand même Leonard Cohen qui dit ça. Mmh. Leonard Cohen, à qui j'aurais peut-être même donné le Nobel de littérature avant de la donner à Bob Dylan.
Il l'aurait peut-être. Hein.
Voilà. Et Bob Dylan dans tout ça, eh ben, Bob Dylan, il se tait. Il n'a pas dit qu'il viendrait chercher son prix. Il n'a pas dit qu'il n'irait pas. Il n'a pas dit qu'il n'en voulait pas.
Il se
contente de monter sur scène, de chanter, de dire bonsoir, pas tous les jours, au revoir, pas tous les jours. Continue, Bob. Tiens, on va commencer ce champ libre avant de parler de cinéma, de show, mm-hmm. avec un disque qu'on attendait avec inquiétude. C'est le dernier Pixies. Ben, il se trouve que le dernier Pixies, intitulé Ed Carrier, est plutôt pas mal. Ils ont changé de bassiste. C'est toujours une bassiste qui joue comme l'ancienne bassiste, qui elle est en train de réaffûter ses Breeders pour nous proposer un nouvel album très bientôt. Et autant l'avant-dernier Pixies était insignifiant, autant celui-ci est hautement recommandable. On écoute un titre de ce nouveau Pixies, le titre Bel Esprit. Et en plus, ils écrivent en français, ils auront peut-être le Goncourt. Pixies, nouvel album, Ed Carrier, avec Monsieur Frank Black au chant. Le titre du morceau, Bel Esprit, futur prix Femina ou futur prix des lecteurs de Elle. Voilà, on va passer au cinéma.
Au cinéma, oui. Alors, moi, je vais parler d'une personne. Alors, ce n'est pas Bob Dylan, mais j'en parle assez régulièrement, qui plus est toutes les années, de par son hyperactivité et de ses moult activités. Alejandro Jodorowsky, bien sûr.
Et pourtant, donc, c'est un vieux hippie sénile à,
la prostate. Plus que rance, c'est bourré de drogue. Donc, mais bon, bref. L'actu de Alejandro Jodorowsky est plutôt chargée. On va d'abord parler de son dernier fait et bijou cinématographique, qui est Poésie sans fin, en français. qui est en fait le deuxième volet des récits de jeunesse de Jodorowsky après son premier volume, donc La Danza de la Realidad, qu'il avait réalisé il y a 3 ans. Donc là, bon, le premier film évoquait davantage l'enfance du protagoniste. Celui-ci, en l'occurrence, montre l'adolescence du jeune Alessandretto, ses souffrances, ses périphéries, ses péripéties, je vais y arriver, ses choix. Le fiston décide, il ne sera pas médecin, il sera poète. Donc le film démarre de son départ initial de Tocopilla vers Santiago jusqu'à son départ pour Paris, tenté par le surréalisme d'André Breton.
Et puis une belle rousse aussi.
Et une belle rousse aussi, absolument. Donc, que dire de ce film, hormis que, bon, déjà, il faut aller le voir, parce qu'on le ressent plus qu'on n'en parle. Dire de ce film, c'est une ode à la création, véritablement. Jodorowsky, 87 ans, fait montre juste d'une force formelle, d'une inspiration narrative époustouflante. De poésie, il est bien question tout le long du film, à travers le texte et les images, où le réalisateur exprime totale liberté et nous offre un cinéma sans limite, d'une créativité incroyable. Et du burlesque au parfois tragique, le film laisse quand même émaner une douce impression de magie qui incite à s'ouvrir vers l'imaginaire. Jodorowsky dépasse largement le cadre du réel pour plonger dans le domaine du fantasme et de la réconciliation avec son passé et même avec son présent, dans la mesure où il a eu des différends avec ses fils qui sont les interprètes du film. Et comme le dit Jodo, un art qui ne sert pas à guérir n'est pas un art. Ainsi, moi je trouve son côté félinien, sa richesse plastique, le délirium émotionnel qui en découle, des acteurs au bout de leur performance corporelle, gestuelle, font de ce film sincère et bouleversant une œuvre sublime. Donc je n'en dirai pas plus, tout simplement, allez le voir, allez voir ce bijou, ça vaut le coup. Voilà, et en attendant que le troisième se fasse, il faut espérer, parce que le monsieur est âgé, mais voilà.
Merci Joe pour cette introduction. Il a dit qu'il n'en dirait pas plus, ouais, alors non, on va essayer d'en placer une. oui, tu l'as dit, c'est le deuxième volet d'une trilogie.
D'une trilogie, peut-être. Hein, oui.
Encore faut-il que Jodorowsky ait les moyens de faire
un troisième film. Oui, et puis on est assez optimiste, parce qu'il se débrouille tout le temps, et puis il a plein de projets, donc je pense qu'il y arrivera.
On en parlait tout à l'heure, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est lui qui paye, hein, le producteur.
Oui.
Il a payé une grosse partie.
Il a payé, il a financé la totalité du premier, qui était de 500 000 dollars, et il a financé une partie du deuxième, oui, avec le crowdfunding aussi.
Alors, tu le disais, poésie sans fin, film poétique, en tout cas chez Jodo, toujours tout son cinéma est poétique.
Poétique.
Fellini, tu l'as dit aussi, Fellinia.
Oui, bien sûr.
Il faut accepter de lâcher la rampe, hein, pour aller voir ce type de film. Damien, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu, l'un des plus gros chocs cinématographiques de l'année, vraiment à aller voir absolument. Pour quiconque veut découvrir ne serait-ce que l'univers cinématographique de Jodorowsky, il y a vraiment tout dedans, et c'est, je dirais presque que c'est un de ses films les plus abordables, en un sens.
Avec le premier, avec La Danza de la Realidad aussi, qu'il avait fait, qui est vraiment dans le même ton, peut-être un peu plus sombre, mais oui, c'est peut-être les plus abordables, oui, effectivement.
D'accord, qui n'est pas le premier film, mais le premier de la série.
Le premier de la série, oui, tout à fait.
Le premier film, on
en
parlera.
Oui, le premier de la série.
On en parlera
de
tout à l'heure. Moi, j'ai juste pour voir vos réactions à tous les deux, j'ai quelques critiques de revues. Donc, je commence par, je ne sais plus qui, Libération.
Voilà.
Le plus désagréable dans le film tient dans le nombrilisme ahurissant de la narration, qui donne l'impression même au spectateur d'être passé à côté de sa vie, au cas où il n'aurait pas vécu un passage à l'âge adulte aussi fantasque et violent. Jodorowsky se plaint que le public colonisé par le cinéma commercial ne se soucie que de détente, etc.
Moi, je termine, Joe,
avec la critique de Libération, qui dit... Beauprince, le chroniqueur, que finalement on pardonnera Jodorowsky puisque on mettra ça sur le compte du gâtisme.
Oh.
Qu'en penses-tu, Damien ?
pour moi, c'est simplement de la mauvaise foi. Après tout, on compte énormément d'artistes qui ont pris eux-mêmes comme sujet, qui s'en sont très bien sortis. Et pour moi, c'est aussi le cas de Jodorowsky. C'est une critique qui est assez hypocrite, au fond, de reprocher un certain nombrilisme, alors qu'on compte aussi...
Oui. J'aimerais dire que les nouveaux réactionnaires existent peut-être aussi dans la critique cinématographique.
Nombrilisme, égatisme, comment dire ?
Non, parce que je veux dire, il est de bon ton de flinguer
oui,
tout ce qui
bah, oui, bien
de...
sûr, mais surtout quand on voit un réalisateur de 87 ans qui montre une plus grande vitalité, une envie de cinéma, qui a envie de croquer le cinéma, beaucoup plus que certains metteurs en scène intellectualisants de 20 ans ou 30 ans qui font un cinéma plus que classique. Voilà. Ça fait du
alors
bien de voir ça.
Je ne veux pas tomber dans la provoque, mais tu as dit la même chose pour un mec qui a fait... un film avec des voitures qui roulent dans le désert très vite en disant il est vieux et pourtant ça bouge.
Mais oui, Georges Millard. Alors c'était
voilà.
Plus, c'était différent.
c'était de la provoque. Autre critique, les Arock, indigestes, répétitifs, mais en même temps ils disent c'est le film punk de l'année. Ça ferait plaisir à
d'accord.
Nos chroniqueurs.
Bien sûr.
Punk. Joe, il nous reste 2 minutes pour parler toujours de Jodorowsky.
Oui, alors deux autres actus, effectivement. La sortie en DVD chez Blackout le 5 novembre, en édition simple, édition collector de Jodorowsky's Dune, donc le fameux documentaire que j'avais chroniqué l'année dernière. Donc ne manquez pas vraiment cette sortie-là. Et enfin, la parution du deuxième volume en 2017 en BD des Fils del Topo, qu'il a scénarisé, à défaut de l'avoir mis en scène au cinéma. Donc deuxième et dernier volet, en fait. Hein.
Alors, ce qui veut dire trois.
Trois volets.
Trois volets, la bande dessinée des Fils de El Topo.
Oui.
Les fans de Jodorowsky savent que son premier film... un de ses premiers films, en tout cas le premier qui a eu du succès dans les années 60, bah c'était justement El Topo, histoire d'une sorte de...
Petite parenthèse, en lisant l'interview de Rock'n'Folk, il a quand même le projet de les porter au cinéma, Les Enfants d'El Topo, sur
d'accord.
Le titre Les Enfants d'El Topo.
Donc le El Topo, c'est l'histoire d'une sorte de messie qui a deux fils, Cain et Abel,
oui.
Enfin voilà, et ça se termine en bain de sang.
Oui.
Mais en même temps, ça annonce la rédemption, etc. Ce film, c'est un film qui date des années 60. On ne pensait pas qu'il y aurait une suite un jour. Jodorowsky a fait d'autres films depuis. Mais là, comme il est devenu quand même incontournable en tant qu'auteur de bande dessinée, il décide de raconter la suite. Donc après l'apocalypse de El Topo, la vie, les œuvres de Cain et Abel, les fils de El Topo. Voilà. Donc ça, le premier volume est sorti
il y a quelques mois déjà. C'est, oui, voilà, en juillet.
Et on attend.
C'était des projets ambitieux quand même, hein, pour les porter à l'écran. C'est vrai que c'était assez compliqué, mais bon, en tout cas, c'est très très belle BD à lire, en tout cas.
Voilà. Donc, on attend le prochain Jodo en bande dessinée et au cinéma.
Avec plaisir.
Tiens, vous deux, là, Damien et Joe, si je vous fais écouter ça. Voilà, donc je vous fais écouter ça. Vous êtes producteur discographique, vous avez un superbe label. Vous êtes un de ces geeks qui passe son temps sur Internet à télécharger et à faire suivre des morceaux plus extraordinaires les uns que les autres. Est-ce que vous faites suivre à votre liste d'amis cet album ? Pas sûr, hein, je crois. Hein. Oui, je vous sens un petit peu hésitant. Alors... qui sont ces voix qui hurlent dans nos casques ? Eh bien, c'est un groupe dans les années 60 qui s'appelait les Castiles. Et le chanteur des Castiles, c'est un mec qui, quelques années plus tard, s'appellera le Boss.
Ah oui.
Alias Monsieur Bruce Springsteen.
Mmh.
qui, eh oui, difficile à reconnaître. Alors, c'était l'époque où tous les groupes américains rêvaient d'être les nouveaux Beatles. Donc voilà, les Castles, c'est un petit peu raté. Heureusement qu'il a persévéré. Pourquoi je vous parle de ça ? Bah, tout simplement parce que sont sortis coup sur coup, il y a quelques semaines, un CD qui s'appelle Chapter and Verse, qui est une compilation de titres, dont quelques inédits, et en particulier ce chef-d'œuvre des Castles, dont des inédits donc de Bruce Springsteen. Disque censé être écouté tout en feuilletant et en lisant attentivement la biographie du boss qui vient de sortir également. Ça s'appelle Born to Run. Mm. Dans cette biographie, dans ce bouquin de 600 pages, Bruce se livre et on découvre ce livre. C'est un livre. Bruce se livre et on découvre que Springsteen, c'est pas ce qu'on croit. Tout à l'heure, Joe, tu me disais, Springsteen, on voit le, symbole l'américain de
virilité,
bodybuildé.
Oui, voilà. Bien sûr.
Alors, c'est pas ça du tout. On savait que Born in the USA n'était pas un hymne républicain et pro-impérialiste. Ça, on le savait, mais ce qu'on savait moins, c'est que Bruce Springsteen est un être humain qui court. Ben, il ne sait pas trop après quoi. Il se pose lui-même la question du pourquoi il est capable chaque soir de s'envoyer un concert de 4 heures sans s'arrêter, alors que son public se contenterait largement des 2 heures syndicales de la plupart de ses autres collègues. Pourquoi il est aussi exigeant avec lui, avec son groupe, etc. Ça, il ne le sait pas. Ce qu'il nous dit, par contre, c'est qu'il essaie, à travers tout ça, de fuir ce qu'il appelle... ce qu'on appelle aussi la dépression, c'est-à-dire maladie qui le guette dès qu'il s'arrête. Ce qu'on ne savait pas et qu'il nous explique dans ce bouquin, c'est que cette chose-là, il en a hérité de son père et qu'à l'âge qu'il a, je crois qu'il doit, je ne sais pas quel âge il a, Springsteen, petite soixantaine.
Soixantaine, je dirais.
Ben, il a toujours peur du papa.
D'accord.
Alors, on en connaît d'autres, vous allez me dire, oui, sauf que lui, ben, apparemment, ça a servi de moteur à ce qu'il nous donne et à ce qu'il fait. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, précipitez-vous sur Born to Run. C'est Bruce Springsteen qui écrit, c'est lui qui écrit, c'est pas un nègre qui l'a écrit. Et ça ne serait pas intéressant qu'il nous raconte une 12 000 000e fois sa vie d'artiste, il nous raconte sa vie d'homme, et si on veut réellement découvrir un auteur attachant, un artiste attachant, puis très certainement un futur prix Nobel, eh ben, lisons Born to Run, Springsteen, chez Albin Michel, ce qui n'empêchera pas d'écouter Born to Run dans le casque.
Sprung from cages on Highway 90. Champ Libre, le favori.
Toujours favori, l'album du projet de Les Claypool et Sean Lennon, ça s'appelle The Claypool Lennon Delirium. C'est un disque pour fans de la guitare basse. Et je vous propose, alors l'album s'appelle Monolith of Phobos, je vous propose un titre, There's No Underwear in Space. Alors, il y a peut-être un peu moins de basse que d'habitude, mais je pense que Damien l'a écouté. Les Claypool, c'est pas n'importe qui. Encore un métalleux.
Métalleux, ouais, discute, allez. Mais...
On écoute
bon,
Claypool Lennon. Delirium, je l'avais dit, hein, Claypool Lennon Delirium, c'est le nom du groupe, Monolith of Phobos, c'est l'album. C'était le favori de Champ Libre depuis plusieurs semaines. Il y a un autre album qui est arrivé dans la boîte à lettres il y a quelques jours. Je sais pas si le petit Sean va tenir le coup jusqu'à la semaine prochaine. Écoutez Champ Libre, hein, sur les ondes de Couleur FM. Si vous voulez avoir la suite... Damien, on parlait de métal.
Eh oui, chers auditeurs, mauvaise nouvelle, je vais parler islandais dans cette chronique. En effet, le groupe de folk metal Skalmold vient de sortir un nouvel album et, non content de chanter la gloire de ses ancêtres, il la chante dans sa langue d'origine. Je m'excuse donc par avance envers les auditeurs islandophones s'il y en a. Alors on commence tout de suite le massacre de la langue avec Nidavellir pour se mettre dans le bain.
Ouya.
Nida Velir, donc. L'album démarre avec Muspel, au rythme martial marqué par une bonne alternance entre chant grave, ce qu'on a pu entendre à l'instant, et chant aigu sur les couplets. Un excellent riff de guitare soutient Niflheimer, où les influences traditionnelles se mélangent avec une production métal. Alors, on vient de l'écouter à l'instant. Nida Velir est le morceau de bravoure de l'album, avec un chant rappeux, des instruments folkloriques et un solo pas chiant, à mon sens. C'est une chose qui devient rare dans le métal. On a de plus en plus de groupes qui soit suppriment les solos, soit tombent dans le côté un peu shredder, virtuose.
Scorpion a supprimé les solos.
Scorpion ?
Non, c'était une parenthèse.
Donc, Nida Velir, ça nous donne juste l'impression de débarquer dans Drakkar, en fait. Et
un petit peu les cœurs de l'armée rouge aussi.
D'une certaine manière, oui, on va plus retenir un Drakkar.
Ouais, allez, vas-y, on continue.
Que dire de Midgardour, alors, sinon qu'elle nous donne une furieuse envie de pogoter, nous fait attendre avec impatience un passage de Skalmold sur le territoire français. À Lyon, peut-être, hein, on peut espérer. Utgardour fait partie de ces chansons d'initiés, inécoutables pour l'oreille qui ne s'y est pas préparée et qui n'entendra que des borborygmes, mais l'amateur saura reconnaître la qualité du morceau.
On peut l'écouter, on peut...
Bah après, non, je sais pas, peut-être aussi que c'est qu'on pourrait qualifier tout l'album comme ça en fait. Je ne sais pas.
Il est bienvenu dans cette émission.
Ensuite, on a Affelheimer, que je trouve sublime dans le genre épique. Après 3 minutes de guitare, suivent des chœurs masculins traditionnels qui ajoutent une dimension plus lyrique, si tant est qu'on puisse parler de lyrique chez les Vikings, pour une ambiance qui n'est pas si métal que ça au fond. Asgardur est le premier morceau de l'album en chant clair, et on espère en entendre d'autres à l'avenir. C'est l'occasion de découvrir la beauté de la langue islandaise, tout en profitant de celle de la voix du chanteur. Changement total d'ambiance avec Effelheimer, balancé à toute berzingue avec les amplis à 11, qui sonnent comme du Motorhead nordique, et on l'écoutera dans quelques minutes pour en avoir la preuve. Enfin, véritable épopée métallique de 9 minutes, entre violence et intermède instrumental, Vanheimer clôt l'album en beauté. Mais c'était sans compter les titres de la version bonus, 4 reprises, de groupes notamment originaires des pays froids, donc Fintroll pour le métal et Sigur Rós pour le rock ambiant, et aussi une reprise d'un groupe assez récent, Hellstorm, qu'on pourrait qualifier de pirate metal, et une reprise donc beaucoup plus viking pour le coup. Donc Sigur Rós, morceau qui fait des morceaux d'habitude plutôt doux, lents, est passé sous le rouleau compresseur Skarmold pour un résultat qui est intéressant. Je vous encourage à aller l'écouter.
Ouais, c'est un petit peu comme si Motorhead reprenait
Porcupine Tree.
Oui, Francis Cabrel.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Un petit truc. Non, j'essayais de parler d'artistes que mes auditeurs connaissent.
Oui.
Parce que, c'est plus large que ça, j'en ai... Pardon, excusez-moi.
Et puis, on a aussi dans les titres bonus, 3 titres live qui nous font encore plus attendre un concert éventuel. Alors...
Ah, tu as vraiment accroché à...
Ah oui, à vraiment, mon album de la rentrée, mais il y en a eu d'autres et je vais en parler dans quelques instants.
Tu as une petite idée... Tu vas peut-être me dire que les textes ne sont pas toujours très importants dans cette musique ou alors...
Non, là, j'ai plus envie de dire qu'il faudrait se laisser porter par la langue, finalement. Ouais, on devine au titre Asgardur, ils ont aussi fait des chansons qui s'appellent Loki, que le groupe parle de mythologie nordique. Bon, c'est pas forcément
côté épique.
Voilà. Donc, on est toujours dans ces thématiques des dieux nordiques, de l'aspect viking.
Non, bon,
j'ai plus envie de me laisser porter par la langue finalement que de réellement me pencher sur les textes.
Après tout, on écoute du Kobaya hein, de temps en temps.
Par exemple. Hein? Par exemple.
Donc,
alors, que dire de ce Vögguvísur Yggdrasil, album au titre imprononçable hein. Eh bien, c'est un très bon opus.
Pour les Islandais.
Voilà, les Islandais, ils ont un peu plus de chance que nous.
S'il y a des Islandais qui écoutent Chant Libre...
Ils sont invités à venir faire eux-mêmes leur chronique de Skalmold.
Et à corriger
ils seront les bienvenus.
Il y a un parti pirate, hein. Tu parlais de pirates, c'est les pirates qui...
Oui.
Enfin, voilà.
Et je voudrais juste souligner une dernière fois que Skalmold est sur le label Napalm Records, donc qui est l'un des labels de métal les plus intéressants du moment.
Et que l'on remercie chaudement.
Oui, on le remercie chaudement, notamment pour deux autres albums, ceux de Finsterforst, album d'un groupe allemand, et Viagonist, ça c'est un groupe suédois ou des pays froids.
Que tu chroniqueras peut-être.
Ces deux albums non, que je n'ai pas chroniqué, ils sont déjà sortis, je n'ai pas chroniqué parce qu'il fallait faire un choix, mais ils valent vraiment le détour, et je pense qu'ils sont tout aussi intéressants que l'album de Skalmold. Et voilà, c'est trois albums qui viennent du même label, et qui ont fait le bonheur de ma rentrée métallique et métalleuse. Voilà, donc on va écouter Effelheimer, donc que j'ai qualifié de Motorhead nordique. À vous d'en juger.
Vous êtes dans Champ Libre sur les ondes de Couleur FM. Champ Libre, l'émission pendant laquelle on écoute du rock à n'importe quelle heure. Oh, il y a un gros silence. Mais je me comprends. Je vais vous parler de bouquins et de littérature. Il paraît que ça adoucit les mœurs après la musique islandaise. C'était quoi le nom du groupe ?
Skalmold et l'album, je vais reprendre mes notes, Vögguvísur Yggdrasils.
Je te remercie, Damien. Voilà. Alors, parlons littérature dans Champ Libre ce soir. Je vous ai conseillé le Born to Run de Springsteen, une biographie. Moi, j'ai passé un excellent été en lisant une biographie que j'attendais depuis longtemps. C'est la biographie de Monsieur Robert Wyatt par Marcus Oder. Marcus Oder, c'est un gars qui a eu la chance de pouvoir rencontrer plein de fois Robert Wyatt, de discuter avec lui, de rencontrer d'autres personnes de son entourage. La biographie en anglais, Different Every Time, c'était le titre du dernier album de Robert Wyatt, Différent Chaque Fois. C'est chez Castor Music. Alors Robert Wyatt, c'est le Père Noël.
Oui.
Hein, c'est le mec avec une grosse barbe dans un fauteuil roulant. Alors je ne vais pas vous raconter pour la millionième fois comment il est arrivé dans un fauteuil roulant. Si, allez, je vous la fais court. Dans cette biographie, trois parties. Première partie, le jeune Robert Wyatt, batteur, beau, a ses quelques années de formation adolescente dans une famille, comme on dit à l'époque, progressiste. Mmh. C'est-à-dire une famille d'artistes, on fait ce qu'on veut, on accueille les potes qu'on veut. C'est avant 68, il se balade, il rencontre de grands artistes, y compris Georges Braque, le peintre. Voilà, il se forme à l'art, pas uniquement la musique, mais également la peinture, etc. Deuxième partie, début des années 60 jusqu'à 70, deuxième vie de Robert Wyatt, celle du musicien excessif, un gars qui va jouer dans un groupe qui était l'équivalent du Pink Floyd à l'époque, ce groupe Soft Machine, c'est quand même pas n'importe qui, groupe fantastique qui a réussi à mélanger la musique concrète, le jazz, le rock et les délires pataphysiques, puisque Robert a été intronisé dans la grande fraternité des pataphysiciens de M. Jarry. Cette époque-là, c'est également la période la plus alcoolisée de Robert Wyatt, ce qui explique la troisième partie, c'est-à-dire le reste de sa vie dans un fauteuil roulant, colonne vertébrale brisée, suite à une chute de balcon, après une soirée un peu trop alcoolisée, justement. Alors vous allez me dire, une vie finie, brisée, ben non, parce que c'est un mec qui découvre une autre forme de vie, une nouvelle façon d'aborder la vie, y compris avec des moyens limités, et qui va se lancer dans une carrière extrêmement riche, 11 albums, avec des albums fantastiques. Je ne conseillerai jamais assez à ceux qui ne l'ont pas écouté, d'écouter, d'acquérir, d'en acheter plusieurs exemplaires du fameux Rock Bottom de Robert Wyatt, ce que je considère comme le plus beau disque, plus désespéré aussi, jamais enregistré. Voilà, Robert Wyatt, c'est un mec qui est hyper intéressant, donc ça vaut le coup de lire sa bio. Il a rencontré plein de gens. Il a milité également. Je crois que ça devait être le dernier adhérent du parti. Non, je plaisante. Un des derniers adhérents du parti communiste anglais. C'est dire, ça existe. Si, si, ils doivent être trois, dont Robert Wyatt. Voilà, donc je plaisante encore. Lisez Robert Wyatt, Different Every Time. Là aussi, un être humain. Deuxième bouquin à lire. Le dernier livre de M. Grell Marcus. Alors, qui est Grell Marcus? C'est M. Bob Dylan. C'est le spécialiste de Bob Dylan, Grell Marcus. Entre autres, il a écrit plein d'autres livres. C'est l'érudit rock par excellence. C'est un monsieur qui, à lui tout seul, pourrait animer tous les cours d'une université consacrée à la musique beat, rock, punk, etc., etc. C'est, comment dire, c'est le Pierre Bourdieu de la musique rock. À ne pas confondre avec le Philippe Manœuvre de la musique rock, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le même bout de la lorgnette. Excuse-moi, Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Grell Marcus? Eh bien, il a sorti un bouquin qui s'appelle « L'histoire du rock en 10 chansons ». Alors, tout le monde se précipite en se disant comment il a fait pour n'en retenir que 10. Eh bien, c'est facile. Il a pris que des chansons qu'on n'aurait pas retenues, nous. La première chanson qu'il a retenue, c'est « Les Orioles ». En 1948, je suppose que vous connaissez tous. Mmh. Voilà, moi aussi. Et ça se termine par Lady Gaga. Ah ah ah, je vous sens un petit peu blême là. Lady Gaga dans une histoire du rock. Eh bien, figurez-vous qu'en lisant Grell Marcus, ça devient limpide. Alors évidemment, il n'oublie pas les autres, les Beatles, les Fleming Groovies, les Stones, et j'en passe. Mais à travers ces chansons, qui sont des chansons banales, il nous dit que la plupart de ces morceaux échappent parfois à leur auteur et que, en fonction du contexte et de quand on l'a écouté, ça construit, ça participe à la construction de cette chose immense qu'est l'histoire du rock. Et il nous dit, le postulat de ce livre, c'est de circonscrire l'histoire du genre et de ses centaines de milliers de formes à seulement 10 modèles, Alors, bien sûr, c'est profondément absurde, et c'est pour ça que c'est drôle. Peut-être qu'on devrait organiser un tournoi et demander aux lecteurs les 10 chansons qu'ils aimeraient retenir. Le gagnant aura droit à une copie du bouquin qu'il pourra mettre en pièce. Alors, on ne fait pas ça, je l'ai pas fini. Il y a un critique qui a dit quelque chose d'hyper intéressant au sujet de ce livre. Il a dit « L'histoire du rock n'est ni rationnelle ni défendable. Le récit fluctue et change au gré des expériences uniques des lecteurs. » C'est ça tout l'intérêt de la chose. Donc je répète, Grêle Marcus, l'histoire du rock en 10 chansons chez Galad.
Chez Galad, qui est un très très bon éditeur, assez spécifique, et qui édite de très très bonnes choses d'un point de vue général. En fait.
Et je termine, alors ça pourrait être musical, mais ça ne l'est pas, avec chez Actes Sud un récit, ça s'appelle « Ma part de Gaulois », et c'est écrit, signé par Majid Cherfi, que vous connaissez. Qui est Majid Cherfi?
Le chanteur de Zebda.
Voilà, je vous avais dit que ça pourrait être une chanson. Donc le chanteur de Zebda n'en est pas, c'est un gars extrêmement intéressant, qui n'en est pas à son premier bouquin. Mais celui-ci m'a vraiment touché, passionné. Ma part de Gaulois, ça raconte sa vie, son histoire. Il est lycéen, c'est l'année du baccalauréat. Donc Majid, c'est quoi? C'est un petit arabe de la rue Raphaël, des quartiers nord de Toulouse. Les maguettes pour les Lyonnais, Montmousseau pour les Vénitiens, etc., etc., le 9-3 pour nos amis de la région parisienne. Enfin bref, Majin, c'est un... On les appelle les petits beurs à l'époque. Majin, c'est un petit beurre qui rêve de passer le bac. Alors pourquoi il rêve de passer le bac? Parce qu'il a une maman, Majin. Alors il a un papa qui travaille, qui est plutôt discret, comme beaucoup de papas de ce milieu-là et de cette génération-là. Et il a une maman qui se ferait une fierté dans tout le quartier d'avoir un fils qui aurait le bac. Alors, tant pis pour les autres fils. On ne mise pas sur plusieurs chevaux à la fois dans la famille Cherfi. On mise sur le petit Majid, et c'est lui qui a toute la pression. T'as intérêt à avoir le bac, sinon il y a ta mère qui t'étripe. Alors, il fait ce qu'il peut, mais il a la pression de la maman d'un côté, et puis il a la pression du quartier de l'autre côté. Parce que pour les copains du quartier, le mec qui réussit à l'école, c'est un PD. Pour les copains du quartier, on ne va pas jouer avec l'autre tapette qui est toujours en train de lire. Déjà, il a lu un livre où il va à la bibliothèque. C'est un truc pas possible. C'est impensable. Donc il va naviguer entre tout ça. Donc le roman, le livre nous raconte cette chose-là. Il nous raconte comment Majid va rencontrer des Blancs. Parce que dans ces quartiers, on se sent ni Blanc, ni Français, ni... Mmh. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut le lire aujourd'hui, ce livre. N'attendez pas après les élections. Lisez-le aujourd'hui. On en parle beaucoup trop en ce moment de ces choses-là. Donc lisez-le. C'est très très bien écrit. C'est touchant. Majid nous explique comment il va rencontrer des copains, comment avec ses copains il va découvrir une musique que les copains du quartier ne comprennent pas et ne comprendront jamais. Cette musique, ça s'appelle le rock, et il découvre cette musique à travers un groupe qu'on aime bien ici et qu'on connaît bien et qui s'appelle Carte de Séjour. Il assiste au concert de Rachita et Carte de Séjour et il explique, il n'y a que des Blancs. Carte de Séjour, c'est le groupe beurre de la région lyonnaise. Dans les concerts, il n'y a que des Blancs. Je le sais, j'y étais. Pas à Toulouse, mais à Lyon. C'est vrai qu'effectivement, ça ne touchait absolument pas les quartiers. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan de cette musique rock? Il y a le Velvet Underground, il y a des textes, il y a de la littérature. Voilà. La boucle est bouclée. On a commencé le champ libre en parlant de Bob Dylan. On parle de nouveau de littérature. Le livre de Majid Cherfi, c'est véritablement de la littérature. J'ai peut-être rêvé, mais je crois bien qu'il... Certains pensaient qu'il pourrait peut-être bien avoir le prix Goncourt.
Mais pourquoi pas?
D'accord, mais c'est extrêmement sérieux ce que je dis. En tout cas, ça s'appelle « Ma part de Gaulois ». Alors, je vous le dis, parce que tant pis, vous lirez quand même le livre. Il l'aura, son bac.
Ah, bon.
Elle deviendra célèbre avec carte de séjour.
La thune spoilée, mais, là, quand
mais,
même.
Mais,
on sait la fin, maintenant.
Pourquoi il faut absolument le lire, Joe? C'est parce que ça explique. À mon avis, ça fait voler en éclats un tas d'idées fausses et préconçues que l'on se fait sur ce qu'on appelle les jeunes des banlieues. Ça explique peut-être leur attitude face à l'école, face à la littérature, face à la France en général. Pour ces garçons et ces filles, surtout pour ces garçons qui ne savent pas très bien où ils en sont. Les filles, d'ailleurs, il en parle beaucoup, Majid, les filles, elles préféraient du côté des PD qui font du théâtre plutôt que de ceux qui faisaient les cons dans la rue. Mais là aussi, elles ont beaucoup de mal à se faire leur place en tant que femme dans ce milieu-là. Voilà, lisez, relisez,
ouais,
lisez 12 fois
à lire, en tout cas, oui.
Le Majid Cherfi, ma part de Gaulois, c'est chez Actes Sud. C'est pas un roman, ça pourrait être un roman, mais en plus c'est d'actualité, donc lisez-le. Merci Damien pour le rock islandais. Merci Laurent pour la technique. Merci Joe.
Merci beaucoup.
Pour Monsieur Jodo et ses œuvres. Et on se quitte, Joe, avec un titre du Mangilov de Monsieur Cass McCombs. Très très beau disque,
oui,
sorti
très beau disque.
Pendant l'été.
Très beau disque.
I'm a shoe. Je suis une chaussure. C'est pas moi qui le dis, c'est Cass McCombs. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bye. Bonne soirée.
Boating comes first.